monde. J'ai mis de l'eau dans mes 20 ans. J'ai fait tourner les têtes en ronde. Comme une idée au mille vents. Mais s'il y avait quelque chose à regretter, je regretterai, ne le dites jamais. Rencontrez-vous qui me parlez d'expérience. Vous m'avez volé ma dernière chance. Que j'ai raison, que j'ai tort. T'es pas né que je chantais encore. Si l'avenir est un mystère, que je l'aime comme un fou, je fais confiance à la misère qui change les champs loups. Si l'avenir est un mystère, le souvenir reste debout. Si vous m'apercevez par terre, c'est que je fais une sieste, c'est tout. Tourner les voix du monde dans le secret de mes chansons. Jamais accordé les secondes. J'ai défilé les horizons. Mais s'il y avait quelque chose à regretter, je regretterais, s'il vous plaît, de vous l'avoir demandé. Vous qui me parlez de complaisance, vous m'avez volé mon innocence. Que j'ai raison, que j'ai tort. T'es pas né que je chantais encore. Si l'avenir est un mystère, que je l'aime comme un fou, je fais confiance à la misère qui change les champs loups. Si l'avenir est un mystère, le souvenir reste debout. Si vous m'apercevez par terre, c'est que je fais une sieste, c'est tout.
Bonjour, le message est pour Monsieur Coulet. Simplement pour vous annoncer que votre candidature a été refusée pour une seconde fois. Et oui, alors prière de bien vouloir baisser les bras et de ne plus jamais recommencer. Je profite aussi de l'occasion pour vous souhaiter toutes mes sympathies pour votre espoir. Nous espérons qu'il soit bel et bien mort. Je vous invite aussi à nous suivre sur notre site internet. Merci à vous, bonne fin de journée.
T'es pas né que je chantais encore. Si l'avenir est un mystère, que je l'aime comme un fou, je fais confiance à la misère qui change les champs loups. Si l'avenir est un mystère, le souvenir reste debout. Si vous m'apercevez par terre, c'est que je fais une sieste, c'est tout.
On vient d'entendre la nouveauté de Pierre-Hervé Goulet qui s'intitule « Bien à vous ».
Actualité culturelle, tout le monde parle du spectacle de François Bellefeuille et les critiques sont vraiment très, très positives. Je vous en lis une dans la presse d'aujourd'hui. Un poids lourd de l'humour, le plus fort du monde, le plus fort au monde, c'est le titre du spectacle de François Bellefeuille, qui sera présenté les 2 et 3 février à l'Olympia. La première avait lieu hier. C'est la chronique de Stéphanie Vallée. 3 ans après son tout premier spectacle solo, François Bellefeuille était de retour sur scène hier soir au Théâtre Maisonneuve pour présenter Le plus fort au monde, une nouvelle mouture où l'on retrouve bien sûr le personnage de scène colérique qui a fait son succès, avec cette fois une touche beaucoup plus personnelle. Bien des destins d'humoristes se précisent lors d'un deuxième spectacle. Poursuivra-t-il exactement dans la même veine? Fera-t-il un virage à 180 degrés? N'était-il que la saveur du mois? On avait bien hâte de découvrir où s'en irait François Bellefeuille avec son personnage irascible et sans filtre. Et on espérait secrètement qu'il s'efface juste un tout petit peu pour laisser plus de place aux curieux humoristes. Pour le plus fort au monde, François Bellefeuille a, à notre grand bonheur, choisi de puiser dans sa vie de famille pour alimenter les délires de son personnage, avec lequel il renoue dès les premières secondes à travers le récit de sa haine des soirées vin et fromage. C'est pas pour rien que les couteaux ont un bout arrondi. C'est pour pas que je me les plante dans la gorge, lance-t-il, tout aussi irrité que quand il parle des cartes de fidélité. Tous ceux qui ont la carte Hermès, sacrez votre camp. Avez-vous la carte François? Avec la carte François, vous gagnez un tour dans le coffre de mon char. Toujours aussi efficace, le personnage colérique s'adoucit quelque peu en parlant de sa blonde, rencontrée sur Kijiji. Une relation qui le pousse à bien des compromis qui ont le don de le faire enrager, comme une visite au centre d'interprétation de la courge ou les convictions environnementales de sa conjointe. La seconde moitié du spectacle est de loin la plus réussie. François Bellefeuille y présente sur un tableau une série de dessins qu'il a réalisés à l'âge de 8 ans et que sa mère a retrouvés. Un segment hilarant où l'on découvre notamment Superman, l'homme le plus fort au monde, avec son pénis. C'est le titre. Les divagations de François Bellefeuille, qui s'ajoutent au caractère comique des dessins eux-mêmes, laissent les spectateurs presque en larmes à force de rire. L'humoriste aborde avec originalité sa paternité, évoquant avec le sarcasme qu'on lui connaît les contours de comparaison entre parents des prouesses de leurs enfants. « Mon enfant a conduit à 14 mois et il est mort dans un accident de char. » « Ça a mis un fret au parc », grogne-t-il avant de digresser sur sa propre enfance et son adolescence, tout en projetant une série de photos plutôt cocasses. Le public hilar découvre un François Bellefeuille aux prises avec un surplus de poids qui a perdu 60 livres à l'âge de 25 ans. Puisant dans l'intime, l'humoriste a concocté des textes efficaces qui, conjugués à son sens aiguisé de l'observation, ne manquent presque jamais leur cible. Seul petit bémol de la soirée, le numéro consacré à un livre sur les insultes à travers le monde dont l'humoriste a sélectionné les pages les plus insolites. On a un peu de mal à embarquer dans ce tableau qui semble arriver comme un cheveu sur la soupe. La plus grande qualité de François Bellefeuille est sans aucun doute son originalité, qu'il doit en grande partie à sa livraison et à sa gestuelle. Pour son deuxième spectacle, il passe le test haut la main. Il ne se répète pas, fait évoluer son personnage grâce à un ton plus personnel, plus rassembleur. Au cours des 6 dernières années, l'humoriste sera ainsi passé de découverte de l'année à poids lourd de l'humour. Alors qu'Elton John prépare sa tournée d'adieu, qui durera 3 ans, c'est par un simple concert que Paul Simon pourrait faire ses adieux à la scène. Âgé de 76 ans, l'auteur, compositeur, interprète émérite moitié du défunt duo Simon & Garfunkel donnera cet été au Hyde Park de Londres un concert intitulé « Homeward Bound » de « Farewell Performance ». Il pourra compter sur des invités comme James Taylor et Bonnie Raitt pour cet ultime concert offert dans le cadre du festival British Summertime le 15 juillet. Pendant la tournée acclamée de son album Stranger to Stranger, qui était passé par Montréal en juin 2016, Simon avait confié au New York Times qu'il n'avait plus d'intérêt pour l'industrie du spectacle. Rolling Stone rappelle toutefois qu'il avait tenu des propos similaires dans les années 90. Mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. Amos Daragon s'apprête à faire le saut vers le cinéma. Le trio de réalisateurs québécois RKSS, Turbo Kid, entre parenthèses, portera bientôt à l'écran les aventures du héros littéraire créé par Brian Perrault. Pratiquement tous les Québécois connaissent le personnage, alors c'est un très gros défi de faire triper tous les fans, explique François Simard, membre du trio de réalisateurs avec Anouk et Johan Carl Whistle au Journal de Montréal. L'auteur, Brian Perrault, sera quant à lui impliqué dans le projet, tenant un rôle qui sera détaillé prochainement, probablement à titre de consultant. « Je leur fais confiance et je les laisse aller. mais je me rends disponible pour garder le tout cohérent à l'univers d'Amos d'Aragon, explique-t-il. Publié entre 2003 et 2006, les 12 tomes de la populaire saga se sont vendus à plus de 2,5 millions d'exemplaires et ont été traduits dans plus d'une quinzaine de langues. Il relate les aventures du personnage titre chargé de rétablir l'équilibre dans son monde avec l'aide de ses complices Beorf, Lolia et Médusa. Napoléon sur le terrain de l'image. Le Musée des beaux-arts de Montréal propose une vaste exposition sur la maison de l'empereur. C'est une nouvelle de Caroline Montpetit dans Le Devoir, Cahiers Culture. Il a instauré l'Empire après la monarchie à la tête d'une chaotique France post-révolutionnaire. Homme de terrain, de nature peu friand de mondanité, Napoléon Bonaparte tenait tout de même maison, c'est le moins qu'on puisse dire. Il logeait donc avec ses suites dans 5 demeures différentes, entretenues et habitées par quelque 3500 personnes de son entourage. En matière de campagne, de relations publiques, on peut dire que le pari a été réussi. Après seulement 10 ans de règne et près de 200 ans après sa mort, l'image de l'empereur et son nom sont toujours célèbres. L'entourage de Napoléon, qu'on appelle la maison de l'empereur, était dirigé par 6 grands officiers de la couronne et se déployait dans 5 châteaux ayant jadis été habités par des rois de France. C'est donc à cette vie de cour qui se déroulait 20 ans après la Révolution française que nous convoque le Musée des beaux-arts de Montréal avec la grande exposition « Napoléon, art et vie de cour au Palais impérial ». Cette vaste exposition qui réunit 400 peintures et objets de quelque 50 prêteurs est aussi l'occasion pour le MBAM de célébrer les 10 ans de l'acquisition par le musée de plusieurs œuvres de la collection napoléonienne de Ben Wider, cet homme d'affaires d'origine polonaise vivant à Montréal qui a fait fortune dans le culturisme. Passionné de Napoléon, il a écrit une douzaine d'ouvrages sur l'empereur, dont plusieurs démontrant son empoisonnement à l'arsenic, rappelle la directrice du Musée des beaux-arts, Nathalie Bondil, dans le catalogue « La maison de l'empereur » qui accompagne l'exposition. Wider aurait notamment apprécié le fait que Napoléon avait libéré les Juifs des ghettos lors de sa campagne en Italie. Parmi les œuvres et objets que Wider a donnés au musée, on retrouve notamment le célèbre bicorne de l'empereur, le seul en Amérique du Nord, précise Nathalie Bondil, et le portrait en buste de Napoléon en grand habillement réalisé dans l'atelier de François Gérard. Et au sujet de cette exposition, Napoléon, art et vie de cour au Palais impérial, vous pouvez la visiter au Musée des beaux-arts de Montréal du 3 février au 6 mai 2018. Et pour terminer, triste nouvelle, l'acteur Mark Sully, qui incarnait Noah Puck Pockerman dans la série musicale Glee, est mort hier à l'âge de 35 ans, a confirmé son avocat à l'Associated Press. Si ce dernier n'a pas précisé la cause du décès, une personne travaillant pour les forces de l'ordre, qui n'est pas autorisée à parler publiquement de ce cas, a raconté que l'acteur avait été trouvé pendu dans une résidence du quartier Tujunga à Los Angeles. Mark Sully avait plaidé coupable l'an dernier à des accusations de possession de pornographie juvénile et il devait se présenter en cour le 7 mars afin de connaître sa peine. Selon les procureurs, son ordinateur contenait plus de 50 000 images pornographiques mettant en scène des mineurs.
Appelle ça le hasard. T'as réussi à me sortir.
On l'a découvert au sein de la formation Okoumé il y a de ça près d'une vingtaine d'années, mais il jouit maintenant d'une grande carrière solo. C'est un extrait de son album La tête haute, Jonathan Pinchot, et la pièce Belle infirmière.
Et la chronique de Patrick Lagacé s'intitule « Voici le visage des soins infirmiers ». Lundi matin, Émilie Ricard est rentrée du boulot, au bout du rouleau. Elle est infirmière en CHSLD en Estrie. Elle a décidé de se confier à Facebook en commençant par une citation du ministre de la Santé. « La réforme du système de la santé est un succès. » Voici le visage des soins infirmiers. « Hey, mon petit docteur, je ne sais pas où tu puises tes informations, mais c'est sûrement pas dans la réalité. » Pour avoir accès au reste du texte, il fallait appuyer sur « plus » et sous ce « plus » en gros plan. Le visage d'Émilie était le visage évoqué dans la première ligne de son texte, un visage défait par les larmes. Dans son texte, Émilie se disait « vidée ». Exténuée après une nuit à se démener comme une folle parce qu'elle est seule pour couvrir entre 70 et 76 patients, avec une infirmière auxiliaire et deux préposés aux bénéficiaires. Elle raconte la lourdeur des tâches, le caractère délicat des interventions et le spectre très large des maux qui affligent ces patients. « Je pars de mon corps la tête pleine car j'ai laissé le patient dans un état instable », écrit-elle au sujet de l'un d'eux. Et que je n'ai pas pu faire toutes mes tâches. Émilie part la tête pleine, et plusieurs de ses patients ont la couche pleine. Pas eu le temps de les changer pendant la nuit. Elle raconte le quotidien de beaucoup d'infirmières au Québec, un quotidien qui en pousse certaines à faire des actions d'éclat que vous voyez peut-être passer ces jours-ci. Je pense notamment à ce sit-in à la Cité de la Santé pour protester contre le TSO, le fameux temps supplémentaire obligatoire. C'est un exemple parmi plusieurs. Après avoir écrit et pleuré, Émilie s'est donc assoupie d'un sommeil un peu tourmenté. Sur le coup, m'a-t-elle expliqué hier soir dans une entrevue téléphonique, j'ai publié sans trop penser à la force de Facebook. À son réveil, peu après, son cri du cœur avait déjà été partagé 300 fois. Et au moment d'écrire ces lignes hier soir, la viralité de son statut était plus intense qu'une épidémie de gastro en CPE. 41 744 partages, 28 mentions, 28 000 mentions « j'aime ». Émilie a un peu paniqué en constatant que son statut prenait en feu. Je me suis dit « oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Est-ce une erreur? Je ne voulais pas que mon employeur se sente attaqué. Je ne l'attaquais pas. C'est pas de sa faute. Le problème est à grande échelle. Il est provincial, je me suis dit. Si mon employeur se sent attaqué, je suis dans le trouble. » Il y a une petite peur qui m'a saisie, je dois dire. Les partages se multipliaient, les j'aime aussi, ainsi que les messages d'appui dans sa messagerie. Émilie Ricard a contacté Sophie Séguin, présidente locale de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. « Je pense, lui a dit Émilie, que je viens de larguer une bombe. »« Je le pense aussi », lui a répondu Sophie Séguin. « Mais c'est correct, on en avait besoin ». Émilie Ricard a une toute petite voix et n'a pas de fibre militante. Quand elle a appelé son syndicat lundi matin, c'était son premier véritable contact avec son syndicat. Elle a 24 ans. Infirmière, c'est sa vocation. Dans les premiers stages au cégep, là où d'autres découvrent que ce métier n'est pas pour eux, Émilie a plutôt attrapé le virus. « J'ai tout de suite vu que c'était pour moi. C'est... » point de suspension. L'infirmière aux cheveux roses cherche ses mots, me dit qu'elle est sous le choc de tout l'intérêt suscité par son texte, qu'elle n'est pas habituée à parler comme ça à un journaliste. Elle trouve les mots. C'est ultra gratifiant d'aider les patients, malgré tout ce qu'on peut dire sur le côté difficile du métier. Ça donne un sens à ce qu'on fait. C'est spécial, la relation avec un patient. Elle est infirmière depuis 3 ans, a déménagé de la Mauricie à l'Estrie pour avoir un poste à temps plein. Elle travaille de nuit, par choix. Songeais-tu à écrire ce texte depuis longtemps? Non, je n'écris pas des textes comme ça d'habitude. J'ai décidé d'écrire après une nuit où j'étais dépassée par la tâche. Mais je pensais jamais que ce serait partagé comme ça. Je pensais que ma grand-mère et ma tante le liraient. Si des milliers de gens ont lu et partagé son texte, croit-elle, c'est parce qu'elle a mis des mots sur des sentiments de beaucoup de personnes dans le réseau de la santé et des services sociaux. Es-tu surprise de pleurer en écrivant ton texte? Étais-tu surprise de pleurer en écrivant ton texte? C'est la question que lui pose M. Lagacé. Non, ce n'était pas la première fois que je rentrais à la maison en pleurant. C'est ça le visage des soins infirmiers. On est à bout de souffle. On est plein à finir dans cet état. Je répète qu'Émilie Ricard n'a que 24 ans, 3 ans d'expérience à peine. Infirmière, c'est sa vocation. Elle commence sa carrière, mais déjà elle se sent au bout du rouleau, comme beaucoup d'autres artisans du réseau. Je suis triste de penser à me réorienter. Pour faire quoi? Je sais rien faire d'autre. J'ai des émotions contradictoires, je suis déchirée entre l'amour que j'ai pour mon travail et l'amour que j'ai pour ma personne, pour ma santé. Les gestionnaires du réseau de Gatineau à Gaspé ont une sainte horreur des sorties publiques de leurs employés, des cris du cœur comme celui lancé par Émilie Ricard, d'où les constants rappels, subtils ou pas, que les employés sont tenus à un devoir de loyauté face à leur employeur. Ce fameux devoir de loyauté est dans le Code civil. Mon expérience du monde de l'éducation est claire. Ce devoir de loyauté est utilisé comme matraque par les commissions scolaires pour faire taire les profs qui pourraient être tentés de faire des sorties publiques sur les médias sociaux ou dans les médias pour dénoncer les ratés du système. Il ne faut pas être un fin limier pour comprendre pourquoi les gestionnaires du réseau ont peur de cris du cœur comme celui qu'a lancé Émilie Ricard. Parce que mis bout à bout, ils dessinent quelque chose comme la vérité. Et que les témoignages bruts des salariés épuisés, c'est 1000 fois plus efficace qu'une conférence de presse syndicale. 41 000 fois plus efficace même. Le système gère des problèmes. C'est vrai partout dans les structures de l'État. Si le problème n'est pas nommé, montré et démontré, il n'existe pas. Ou en tout cas, il est plus facile à nier. « Voyez nos belles statistiques, dira le gestionnaire. Les choses vont tellement mieux, dira le ministre. » Émilie Ricard espère ne pas être sanctionnée pour son cri du cœur. Son syndicat lui a dit que ce ne serait probablement pas le cas. On verra. Ce serait un scandale si elle l'était. En sourdine, le bébé de 14 mois d'Émilie fait des siennes. C'est l'heure du souper. Avant de la laisser aller, je demande à la jeune infirmière ce qu'elle espère pour la suite des choses. Émilie Ricard réfléchit. S'excuse encore de ne pas trouver les mots rapidement. Les choses sont allées si vite, répète-t-elle. J'ai ouvert une porte, je pense. Une porte pour que les professionnels du réseau s'expriment. J'espère que ceux qui m'ont exprimé leur appui en privé vont parler publiquement pour qu'on brise le silence. Je sais que ça prend du courage, mais je leur dis que la population est prête à nous écouter. Je finis d'écrire cette chronique et le statut d'Émilie Ricard en est rendu à 42 198 partages, soit 454 partages de plus que quand je l'ai commencé. On dirait bien que les Québécois, en effet, ont le goût d'écouter les témoignages de ceux qui tiennent le réseau à bout de bras. Traduction douteuse publiée par TELUS. L'entreprise canadienne a suspendu son compte Twitter hier. Le fonds TELUS a publié sur son compte, au cours des dernières semaines, une série de publicités en français si mal traduites qu'elles sont incompréhensibles. On en parle dans le Journal de Montréal de ce matin. Prenez une grande respiration, broyez-vous, va le tuer, pouvait-on lire sur une image dévoilée le 22 janvier et effacée hier. Cette citation serait l'équivalent français de « Take a deep breath, ground yourself, go kill it ». Après s'être attiré les foudres de nombreux internautes francophones, la compagnie canadienne de télécommunications dont le siège social est à Vancouver a indiqué sur Twitter hier en soirée avoir pris connaissance de cette publication. Elle est complètement inappropriée et inacceptable. Nous nous excusons et allons corriger la situation, mentionne-t-on sans donner davantage d'explications. Plusieurs autres messages mal traduits ont été publiés par le Fonds TELUS, dont le mandat est de financer du contenu lié à la santé et au mieux-être. Des citations énigmatiques comme « Que chaque situation soit ce qu'elle est, au lieu de ce que tu penses que ça devrait être » ou « Vous devez nourrir, vous s'épanouir » ont été émises en décembre dernier. Contacté à ce sujet, TELUS s'est excusé pour l'ensemble des publications problématiques. Le compte a été suspendu afin de nous assurer que nos processus de traduction sont respectés et que les messages sont validés par nos équipes en communication aux médias sociaux basées au Québec, a précisé par courriel le responsable des relations médias, François Gaboury. Vers 19h, le compte de fond TELUS avait disparu. Il a été impossible d'obtenir davantage de réponses à nos questions. Pour Jean-Paul Perrault, président de l'organisme Impératif français, ces traductions douteuses sont révélatrices du mépris de TELUS pour le Québec. On est porté à rire de ça, mais ce ne sont pas des erreurs anodines, a-t-il souligné. C'est grave qu'une grande compagnie comme TELUS n'ait pas mis en place une culture organisationnelle respectueuse du Québec et de la francophonie. L'événement n'est pas sans rappeler la gaffe linguistique qu'a commise le gérant de la nouvelle boutique Adidas à Montréal en novembre dernier. Il avait dit vouloir accommoder Montréal en prononçant quelques mots en français. Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens de ce mercredi, dernière journée de janvier. À venir, les paractualités. Merci de nous écouter en direct. Sinon, allez faire un tour sur notre site Internet. Merci Jean-Sébastien Laliberté.